L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste, dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce nouvel épisode du podcast de l'Institut Montparnasse, Bâtissons des futurs solidaires, nous retracerons l'histoire de la mutualité française que nous comparerons avec celle de nos voisins belges. Pour cela, nous écouterons les propos de deux experts. Charlotte Sinelange, docteur en histoire, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, Paris 1, spécialiste de l'histoire de la mutualité. Elle est l'auteur de « La mutualité grande semeuse de progrès social » paru aux éditions de La Martinière en juin 2018 et de « À l'initiative sociale, les grands combats de la MGEN » paru aux presses du Châtelet en 2015. Nous accueillons également Édouard Delruel, qui est professeur de philosophie politique à l'Université de Liège et co-directeur du Centre de recherche Matérialité de la politique, spécialisé dans la philosophie politique contemporaine. Il est également président de l'Union nationale des mutualités socialistes, Solidaris, et ses travaux portent essentiellement sur les rapports entre démocratie politique et justice sociale. Dernier ouvrage paru, Philosophie de l'État social, Civilité et dissensus au XXIe siècle, Paris, qui met 2020. Alors, on démarre par la première question, qui est une question assez logique. On dit fréquemment, Charlotte Sinet, que l'histoire éclaire le présent. C'est une phrase un petit peu toute faite peut-être. Alors est-ce que pour la mutualité française, Charlotte Sinet, vous qui en êtes une grande spécialiste, on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui est à l'aune de ce qui s'est passé auparavant?
Oui, évidemment. En tout cas, on peut dire que l'histoire reflète l'actualité. En tout cas, l'histoire de la mutualité est faite de nombreux bouleversements, de défis, de problématiques que la mutualité a dû relever et qui façonnent encore son image aujourd'hui. C'est pourquoi on peut dire que cette histoire peut apporter aujourd'hui au présent. En tout cas, cette histoire n'a pas été un long fleuve tranquille.
Alors, vous êtes en train de nous dire en creux que les crises, même pas peur, on peut les surmonter. Alors, si on retrace l'histoire de la mutualité française, on démarre quand et quels sont les tout débuts de cette mutualité?
Alors, la mutualité, c'est le plus ancien mouvement social français. On ne le dit pas assez, et sûrement pas assez souvent. Ce mouvement est apparu à la veille de la Révolution française, dans les années 1780. C'était des toutes petites sociétés qui regroupaient parfois une dizaine de membres, ancrées dans l'artisanat qualifié des grandes villes, et qui cherchaient déjà à protéger ces artisans contre les risques sociaux, à une époque où l'État social n'existe absolument pas. Ces sociétés, elles se développent dans un contexte intellectuel profondément transformé par la philosophie des Lumières, qui apporte avec elle de nombreuses valeurs nouvelles, totalement nouvelles et, j'allais dire, révolutionnaires. Le libre arbitre, la liberté individuelle, la solidarité entre les êtres, l'égalité. Toutes ces valeurs-là vont amener de nouvelles mentalités et vont forger de nouveaux groupements solidaires à l'image des sociétés de secours mutuels.
Alors, est-ce qu'il y a un exemple plus particulier, je dirais, qui caractérise bien ou qui symbolise bien ce mouvement?
Alors, il y en a beaucoup, mais on peut citer, par exemple, les typographes parisiens qui étaient très organisés au sein de ce mouvement mutualiste. On peut citer aussi un mouvement social très renommé, très réputé au XIXe siècle, ce sont les canuts lyonnais, ces fameux artisans de la soie, qui étaient très organisés dans des sociétés de secours mutuels et qui ont d'ailleurs, ces sociétés, participé de près à la fameuse révolution des canuts au début du XIXe siècle.
Très connu à Lyon, effectivement. Alors, si on doit retracer, parce que l'histoire est longue, l'histoire est complexe, elle est pleine de remous, pleine de difficultés surmontées, soyons positifs, soulignons-le. Donc, quelles seraient les grandes étapes si on devait essayer de les brosser en 4 ou 5 points?
C'est compliqué ce que vous me demandez, mais je vais quand même essayer. Alors, la mutualité, effectivement, a eu une histoire très riche, très complexe très, très bouleversée. Je l'ai dit, la mutualité apparaît dans les années 1780 et en fait, à peine apparue, à peine née, ce mouvement solidaire est déjà mis en danger par la Révolution française et notamment par la fameuse loi Le Chapelier en 1791 qui interdit toute forme d'association dans le monde du travail. Donc, d'emblée, la mutualité qui a une dizaine d'années d'existence se voit interdite.
Qu'est-ce qui dérange?
Ben vous savez, le pouvoir a toujours redouté l'association, parce que l'association n'est pas contrôlée. Elle est libre, elle est spontanée et elle peut développer des formes de contre-pouvoir. C'était ça le danger. Le danger dans la Révolution française, c'est qu'il y ait une contre-révolution. Il y a eu déjà beaucoup de menaces de contre-révolution. Donc on veut éviter effectivement que ce mouvement ouvrier s'organise au sein de ces associations et qu'il puisse organiser des mouvements de sédition contre le pouvoir révolutionnaire. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs un petit peu plus idéologiques. L'idée qu'on veut absolument éviter que se reconstituent des formes de pouvoir intermédiaires, ce qui constituait la force de l'ancien régime et ce que la Révolution française a voulu balayer, justement. Donc, on veut lutter contre ce pouvoir intermédiaire et on veut aussi que le citoyen ait désormais une relation directe avec la nation, avec l'État. Et puis, troisième élément qui a joué, effectivement, dans cette interdiction du mouvement associatif, c'est la volonté des révolutionnaires de mettre en place un système de protection sociale. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ignore souvent, mais sous la Révolution française, on a mis en place un système de secours public. Alors, ce programme, qui était un très beau programme, est resté à l'état de projet. Il n'a jamais été concrétisé, mais il manifestait déjà cette volonté de la part de la nation de prendre en charge les secours, comme ce qui est écrit dans la Constitution d'ailleurs, comme une dette sacrée de la nation.
D'accord. Alors, avançons, Charlotte. Après la Révolution ou pendant, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ?
On pourrait dire la Révolution française, c'est la fin de l'histoire de la mutualité puisqu'elle est déjà interdite. Eh bien, en fait, non. Les choses en mutualité se passent rarement comme on aurait pu le croire. Et malgré l'interdit de cette loi, qui est renouvelée pendant tout le 19e siècle, malgré cet interdit, les sociétés de secours mutuels vont continuer à se développer. Et c'est un contexte un petit peu paradoxal qui se met en place jusqu'au milieu du 19e siècle. Les mutuelles sont théoriquement interdites. Mais en fait, on remarque qu'elles sont tolérées par le pouvoir et elles continuent à se développer. Pourquoi ? Parce que l'État social n'existe toujours pas. Les problématiques sociales se développent avec l'émergence d'un mouvement ouvrier de plus en plus nombreux. Et donc, on a besoin de ces sociétés qui sont un palliatif efficace aux insuffisances de l'État. Donc, jusqu'au milieu du 19e siècle, on voit un mouvement mutualiste progresser dans la clandestinité. C'est un peu compliqué, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et on avait, pour vous donner un chiffre, une cinquantaine de sociétés dans les années 1780-1790. On en a 2500 à la veille de la Révolution de 1848.
Donc, on se contente, ou en tout cas, on compose avec l'existant, qui finalement arrange un petit peu tout le monde.
Au milieu du 19e siècle, donc la mutualité interdite mais tolérée, jusqu'au Second Empire où Napoléon III, là, va légaliser le mouvement mutualiste, lui donner un statut légal qui s'appelle la mutualité approuvée. Alors ce statut, évidemment, il n'est pas anodin, il n'est pas neutre. Les mutuelles sont enfin autorisées, légalement autorisées, mais en contrepartie, on exige d'elles un lourd contrôle. Elles doivent accepter un très lourd contrôle de la part de l'État. Pour vous donner quelques exemples, les présidents des sociétés ne sont plus élus. Ils sont nommés par le préfet ou par le pouvoir. C'est quand même un coup de canif énorme dans un contrat qui repose sur la démocratie. Deuxième chose, les mutuelles sont limitées dans leurs activités. Elles ne peuvent plus prendre en charge que la maladie ou la retraite. Et puis, troisième élément important, les mutuelles sont limitées à un échelon local. Elles ne peuvent plus s'organiser au niveau régional, ni même évidemment national. Donc elles restent un mouvement éparpillé, très très localisé. C'est ce que voulait le pouvoir. Il voulait accorder un mieux-être au mouvement ouvrier, mais en échange d'un strict contrôle du pouvoir.
Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, troisième étape, donc cette mutualité contrôlée par le pouvoir, notabilisée, puisque finalement Napoléon III va parvenir à mettre les notables aux commandes des sociétés de secours mutuels, eh bien, malgré tout, elle se développe. Elle se développe et elle devient de plus en plus efficace. Elle prend en charge des problématiques sociales de plus en plus importantes. Elle devient réellement efficace dans ce qu'on appelle la médicalisation de la société, qui commence au 19e siècle. Et puis arrive la Troisième République. Et là, le contexte change encore pour la mutualité, qui s'est vue reconnaître par l'Empire et qui va mettre un petit peu de temps à obtenir une reconnaissance du pouvoir républicain. Parce que les républicains voient d'un mauvais œil cette reconnaissance impériale. Et donc, il va falloir attendre une trentaine d'années pour que la mutualité soit véritablement reconnue par la Troisième République, avec une loi qu'on appelle la Charte de la Mutualité en 1898. Et cette fois-ci, ça y est, les mutuelles sont véritablement reconnues et elles deviennent un mouvement social de grande ampleur qui participe de près à la vie républicaine et qui a une importance cruciale dans la prise en charge de la question sociale.
Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'imagine que les guerres, peut-être la première déjà, ont un effet sur l'évolution de la mutualité?
Alors la Première Guerre mondiale surtout a un effet radical. C'est un tournant majeur, à la fois dans notre histoire sociétale, mais aussi au niveau social. C'est vraiment un bouleversement majeur de notre histoire. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le pouvoir républicain et même l'ensemble de la société française repose sur une conception particulière de la prise en charge des questions sociales. On ne veut pas d'un système à l'allemande. Un système de protection sociale obligatoire, les assurances sociales allemandes. Et la France préférait opter pour un système d'assistance pour les plus pauvres et un système de liberté individuelle. Chaque individu est libre de choisir la manière de se protéger contre les risques sociaux. Et dans ce sens, évidemment, la mutualité était toute désignée pour protéger une grande partie de la population contre les problématiques sociales. Et puis, la Première Guerre mondiale arrive, et avec elle, un cortège qu'on n'aurait pas pu imaginer avant, de morts, d'invalides, de veuves, d'orphelins. On s'aperçoit à ce moment-là qu'une force privée telle que la mutualité ne suffit pas à prendre en charge ces problématiques sociales, qui ont littéralement explosé. Et puis, deuxième élément, la nation a désormais une dette envers ses victimes. Donc, à partir de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, on va progressivement s'acheminer vers un système obligatoire. Vous voyez, c'est là qu'on voit l'importance de l'histoire des mentalités dans cette évolution. Avant 1914, les Français n'étaient pas prêts à un système de protection sociale obligatoire. Ça peut paraître hallucinant aujourd'hui pour des Français du XXIe siècle. On ne voulait pas d'une retraite obligatoire, on ne voulait pas d'une sécurité sociale. Et puis les choses changent en 1918, on se rend compte que l'État social est indispensable et ça va conduire aux lois de 1928 et 1930 sur les assurances sociales qui sont un peu l'ancêtre de la sécurité sociale.
Alors tout ceci est absolument passionnant, je bois vos paroles, mais l'histoire ne s'arrête pas là. On le sait tous, il y a une deuxième guerre qui arrive. Vous nous en dites quelques mots?
Un mot d'abord sur les assurances sociales. La mutualité va obtenir, elle va chercher pendant des années et va obtenir une place majeure dans la gestion du système obligatoire. Elle veut devenir finalement le chef d'orchestre des assurances sociales. Ce qu'elle va faire à partir de 1930, et ce qui peut apparaître comme une grande victoire. La mutualité est reconnue par l'État comme la principale actrice de cette politique sociale. Sauf que il va y avoir des effets inattendus de cette nouvelle activité mutualiste. D'abord, une bureaucratisation. La mutualité s'investit tellement dans l'administration du système de protection sociale qu'elle en oublie ses missions originelles. Elle en oublie sa force qui prévaut dans toute l'économie sociale, une force pionnière de défricheur. Et donc, elle va oublier un petit peu sa force d'impulsion, d'innovation. Et ça va conduire à un événement assez bouleversant durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été un petit peu un traumatisme pour nombre de militants mutualistes, c'est l'adhésion de la Mutualité française, de la Fédération nationale de la Mutualité française, à la Charte du travail du gouvernement de Vichy. Pourquoi? Parce qu'on a un mouvement qui est conservateur, avec des dirigeants âgés, peut-être moins au fait de l'évolution des esprits, et qui donc va cautionner la politique sociale de Vichy. Ce qui va évidemment pas tellement reproché, mais qu'elle va beaucoup se reprocher elle-même quelques années plus tard. La crise de la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt après que la mutualité la ressent. En 1945, après la guerre, quand on est enfin sorti de l'occupation allemande et qu'on va reconstruire la France sur de nouvelles bases, on va mettre en place le programme du Conseil national de la résistance qui prévoit beaucoup de réformes et notamment la création d'un système de sécurité sociale avec une ambition majeure, un système universel pour tous les Français et pour tous les risques sociaux. C'est une ambition majeure qui apparaît comme une amélioration considérable de la vie de l'ensemble de la population française. Sauf que pour la mutualité, c'est un véritable traumatisme, encore une fois. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, conformément au programme du Conseil national de la résistance, on va confier la gestion de la sécurité sociale non plus aux sociétés de secours mutuels, qui deviennent les sociétés mutualistes, mais aux organisations syndicales, qui sont les grandes rivales de la mutualité. Et donc, en 1945, la mutualité se voit évincée, en tout cas écartée, de la gestion du régime obligatoire. Ce qui est pour elle un traumatisme considérable, elle a vraiment l'impression que sa fin est proche, qu'elle ne va plus du tout avoir de mission. Et certains l'affirment même, hein, la mutualité a fait son temps. La page est tournée, le relais est pris par les syndicats.
Alors, est-ce que c'est vrai, ça, dans les faits?
Et non, c'est pas vrai, sinon on n'en serait pas là. Évidemment, deuxième fracture de l'histoire de la mutualité, mais aussi deuxième renaissance, on l'a vu avec la loi Le Chapelier, eh bien, la mutualité, contre toute attente, va renaître de ses cendres. Pourquoi? Parce que, malheureusement, ou heureusement pour la mutualité, la sécurité sociale ne va pas tendre à une universalité complète. On ne va pas prendre en charge toutes les populations, certaines vont revendiquer des régimes particuliers, et on ne va pas prendre en charge tous les risques à 100%. Il va rester ce fameux ticket modérateur, cette part complémentaire des dépenses que la sécurité sociale ne prendra jamais en charge, contrairement à ce que ses fondateurs avaient espéré. Et donc, il va rester une place essentielle pour la mutualité en tant que complémentaire santé. Et puis, la loi va donner à la mutualité de nouvelles missions dans la prévention, dans l'action sociale, qui va lui donner un rôle majeur en tant que mouvement social dans de nombreux champs d'activité.
Alors, on va peut-être donner la parole à notre homologue, si je puis dire, Édouard Delruel, belge. Est-ce qu'il y a des points de similitude dans l'histoire et l'évolution de la mutualité en Belgique versus ce qui s'est passé en France?
Oui, alors il y a évidemment beaucoup de similitudes, et puis il y a quand même deux, trois différences tout à fait majeures. Alors les similitudes, c'est un mouvement qui vient de la société au 18e, 19e siècle, indépendamment de l'État et contre le paternalisme patronal aussi. L'importance de la guerre 14-18, donc ce que Charlotte disait, c'est-à-dire un changement d'histoire des mentalités. Donc, on va vers un système obligatoire, ça, c'est commun. Et puis, j'ai envie de dire, le résultat aussi, c'est-à-dire que les Belges et les Français ont quand même globalement le même panier de protection sociale et d'ailleurs le même type de financement par cotisation qui est, même si il est fortement remis en question, mais le même type de financement par cotisation qui est plutôt une exception dans le monde si on compare aux pays scandinaves ou aux pays anglo-saxons. Ça, c'est les points communs. Il y a deux grandes différences. La première grande différence, elle touche à l'histoire du mouvement ouvrier, d'abord, et aussi à la façon dont la Belgique a structuré ses mouvements politiques. Cette différence, c'est que quand, en Belgique, le Parti ouvrier belge est fondé en 1885, eh bien, il y a une grande osmose organique entre le parti, les syndicats, les mutuelles et le tissu associatif et coopératif. Donc, tous ces acteurs sont extrêmement soudés avec des liens organiques, contrairement à la France où, comme on le sait, les syndicats, le parti et les mutualités ont des histoires un peu distinctes et sont très jalouses de leur indépendance, et notamment la rivalité entre les mutuelles et les syndicats, quelque chose que nous ne connaissons pas du tout en Belgique. Et d'ailleurs, c'est toujours quelque chose qui est vivant aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'action commune. L'action commune, c'est les liens organiques qui existent aussi bien au niveau local, au niveau du terrain, qu'au niveau des instances dirigeantes, entre le syndicat, la mutuelle et le parti. Ça, c'est une première grande différence, mais qui tient aussi à la façon dont le mouvement social s'est structuré en Belgique, c'est-à-dire autour de ce qu'on appelle les piliers. Hein, la Belgique est organisée autour de trois grands piliers que sont le pilier catholique, le pilier socialiste et le pilier libéral, qui ont chacun leur syndicat, leur mutuelle, leur parti, leur tissu associatif, etc. Et donc, ça, c'est aussi une grande différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, on y reviendra peut-être dans l'actualité, mais il n'y a pas de séparation en Belgique entre les institutions de prise en charge, que seraient plutôt les mutualités, et les organisations de revendication, que seraient plutôt les syndicats. Les mutuelles chez nous sont aussi des organisations politiques et qui revendiquent, de la même façon que les syndicats ont également des missions de prise en charge, notamment de l'indemnité chômage en Belgique. Ça, c'est la première grande différence, c'est l'osmose très forte entre les mutualités et le mouvement syndical et politique. La deuxième grande différence, elle touche à 1945. Alors, il y a quand même un point commun, c'est que c'est dans la résistance que se met en place un système de sécurité sociale qui est quand même fort proche de la France, comme je le disais tout à l'heure, notamment basé sur les cotisations. Mais il n'y a pas du tout eu le traumatisme de 45-46 pour les mutualités belges, puisque la gestion de la sécurité sociale en Belgique a été confiée complètement et totalement aux mutuelles. C'est-à-dire que chez nous, et c'est encore vrai aujourd'hui, les mutuelles ne font pas que de la complémentaire, de l'assurance complémentaire, mais gèrent aussi l'assurance obligatoire. Je sais que c'est aussi le cas en France, mais de façon relativement résiduelle. Mais donc la Sécu, si vous voulez, n'existe pas en Belgique. D'ailleurs, les Belges ne disent pas la Sécu, ils disent les mutuelles. On va se faire rembourser par les mutuelles. Il y en a quatre socialistes libérales chrétienne et neutre, pour ceux qui ne se définissent dans aucun des trois piliers. Et donc, les mutuelles chez nous, voilà, elles ont l'assurance obligatoire comme mission, l'assurance complémentaire, et puis aussi ce que vous appelez, je pense, en France, le livre 3, c'est-à-dire tout l'acteur social et citoyen, tout un tissu associatif, on y viendra peut-être également. Mais les mutuelles participent également, en Belgique, à la gestion de l'assurance soins de santé, ce que nous appelons chez nous l'INAMI, l'Institut national de l'assurance maladie invalidité, où nous sommes dans les instances qui organisent en quelque sorte le remboursement, le financement des soins de santé. Donc voilà, donc l'histoire est très différente de ce point de vue-là, mais il faut quand même le dire pour un résultat pour le citoyen qui est en fait relativement équivalent.
D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que la mutualité en Belgique se pose les mêmes questions sur son avenir qu'en France ?
Ben oui et non, c'est-à-dire que comme nous sommes les gestionnaires de l'assurance obligatoire, notre première demande et notre première crainte, serait qu'on nous enlève la gestion de l'assurance obligatoire au profit d'une administration. C'est une tendance qui existe très fortement dans la droite flamande. Je pense que la question se pose moins du côté francophone et comme c'est actuellement une matière fédérale, une matière nationale, il n'y a pas trop de danger, mais ça, c'est évidemment une première chose. La deuxième chose, sur la complémentaire, ça aussi, c'est une différence, c'est qu'en France, les mutualités sont en concurrence avec le secteur assurantiel. Les mutualités sont d'ailleurs en France assimilées à des entreprises d'assurance et soumises aux mêmes règles et aux mêmes types de contrôle. Ce n'est pas le cas en Belgique, puisque nous avons les mutualités ont le monopole de la complémentaire. Donc les assurances privées ne peuvent pas venir sur le terrain de la complémentaire santé. Ça, c'est le deuxième danger. C'est évidemment qu'à un moment donné, au nom des principes du néolibéralisme, de la libéralisation de l'économie, on nous met en concurrence avec des acteurs privés. Donc, nous sommes privilégiés, si vous voulez. Nous sommes privilégiés puisque nos missions sont beaucoup plus larges que celles de la mutualité française. Mais pour le reste, en ce qui concerne la complémentaire, nos enjeux sont les mêmes.
Alors, vous qui bénéficiez peut-être d'un contexte plus clément, plus serein en la matière, comment voyez-vous la situation de la France ? Qu'est-ce que vous diriez de sa situation actuelle et quels conseils éventuellement ou quelle orientation vous semblerait-elle souhaitable ?
D'abord, c'est vrai qu'on pourrait de la France nous envier la situation des mutuelles en Belgique. Maintenant, les forces conservatrices, les forces néolibérales sont quand même extrêmement importantes et elles ne rêvent que d'une chose, évidemment, c'est d'affaiblir les mutuelles, c'est-à-dire un discours en Belgique constant de la droite. Et donc, il ne suffirait pas de grand-chose pour que nous soyons nous-mêmes en difficulté. Donc, il ne faut pas voir la situation en Belgique comme étant absolument idyllique. Maintenant, je suis absolument convaincu d'une chose, que ce soit en France ou en Belgique, le mouvement mutualiste doit plus que jamais être un acteur social et citoyen. Hein. Donc, à côté des missions assurantielle qu'il faut remplir de la façon la plus gestionnaire, la plus professionnelle possible et la plus orientée vers l'affilié ou le client, si on veut l'appeler comme ça, mais moi je n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais je pense que l'avenir des mutualités, elle est du côté de son tissu associatif, de penser le système de santé, de faire des propositions, Charlotte Sinet disait tout à l'heure, de défricheurs, hein, et les mutualités, je pense, ont ce rôle-là. C'est ce rôle-là qui les démarquera, d'une part de la bureaucratie et d'autre part des acteurs de profit, des acteurs privés. Je pense que c'est dans le rôle social et citoyen d'expérimentation, d'être la parole, d'être en quelque sorte le syndicat des patients et le syndicat des individus dans leur santé, dans leur bien-être. Moi, je suis absolument persuadé que c'est de ce côté-là que les mutuelles, que ce soit en France ou en Belgique, trouveront leur avenir.
Alors, Charlotte Sinet, deux mots reviennent souvent dans vos propos, je crois. Anticipation, innovation, peut-être en complément de ce que vient de dire Édouard Delruel.
Alors, j'approuve totalement ce que vient de dire Édouard et je le pense profondément. Ce qu'on voit, c'est que les missions de la mutualité ont toujours évolué. Et c'est peut-être le fondement, la philosophie de l'économie sociale et solidaire dans son ensemble. On défriche, on apporte une nouveauté, elle est parfois reprise, elle est parfois imitée, concurrencée, et on doit à nouveau refaire du neuf, recréer de la nouveauté, apporter quelque chose de plus. On l'a vu au XIXe siècle, la mutualité invente une première forme de protection sociale. Au XXe siècle, elle s'adapte à l'action progressive de l'État. À la fin du XXe siècle, elle doit concilier avec l'apparition d'une concurrence lucrative. Édouard en a parlé, c'est peut-être le dernier grand défi de la mutualité, le défi le plus moderne. On est aujourd'hui sur pied d'égalité avec des organismes assurantiels qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, la même éthique de non-sélection, d'égalité, de solidarité. Et donc, la réforme du code de la mutualité en 2001 a été un vrai bouleversement, puisqu'il a fallu adapter dans le droit français, dans le code de la mutualité, cette réglementation européenne de la libre concurrence. Mais je crois, comme Édouard, que l'avenir profondément de la mutualité, il reste très très optimiste parce qu'elle a des champs d'activité énormes à défricher, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le livre 3. Toute l'activité médico-sociale, les établissements, l'action de prévention, l'action sociale, dans ces champs-là, l'innovation, l'anticipation demeurent une force considérable et elle est d'ailleurs très active sur ce terrain puisque aujourd'hui, les mutuelles gèrent 2800 établissements et services de soins dans des domaines parfois très innovants et avec des prises en charge qui souvent se distinguent par la définition de la mutualité, une certaine vision de l'humanité, un accompagnement spécifique. Et je crois que c'est vraiment dans ce domaine-là que la mutualité a tout son avenir.
Édouard Delruel, vous voulez conclure en quelques phrases ?
Oui, mais je suis évidemment tout à fait d'accord. Moi, je suis convaincu d'une chose et que la crise sanitaire que nous venons de vivre me confirme, c'est que la question de la santé, la question des soins, ce sera la grande question politique du XXIe siècle, comme le travail et le salariat a été la grande question du XXe siècle. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et on voit bien que soit on va dans une logique marchande, un traitement marchand de la question de la santé et de bien-être, c'est-à-dire une médecine productiviste et des patients qui sont des consommateurs de soins, ou bien on est dans une logique de prévention, une logique de solidarité, et là, les mutuelles ont une longueur d'avance, tout simplement parce qu'elles ont une vision éthique et une vision d'anticipation, et donc c'est tout à fait cette culture de l'anticipation et de la solidarité qu'elles doivent continuer à développer. Et je suis persuadé, de ce point de vue-là, je suis relativement optimiste aussi, je pense que dans ce choix sociétal, il y a de bonnes chances pour qu'on prenne le bon chemin et qu'on prenne le bon tournant.
Alors, Charlotte veut dire le mot de la fin. Alors, Charlotte, on vous écoute.
Moi, j'espère, comme Édouard, qu'en fait, cette crise sanitaire aura du bon. Malheureusement, dans toute crise, il y a toujours du bon. Et est-ce qu'on ne prendra pas conscience que ces valeurs solidaires d'humanité, de non-lucrativité, qui étaient peut-être passées pour un peu périmées depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, est-ce qu'elle ne va pas faire prendre conscience justement que ce sont les valeurs d'avenir et que notre société ne vivra bien qu'autour de ces valeurs-là. Je crois que c'est peut-être ça qu'on pourra retirer de cette crise, c'est que l'économie sociale et solidaire et la mutualité auront toute leur place et une grande place à jouer dans ce monde qui va peut-être se recréer sur de nouvelles valeurs.
Le message est dit, il va être écouté, j'en suis convaincue. Vous venez d'écouter donc le deuxième podcast de l'Institut Montparnasse, podcast sur la thématique de l'histoire de la mutualité. Nous remercions chaleureusement nos invités qui ont été dans l'osmose, je reprends le mot émis par Édouard Delruel. Donc nous remercions nos invités Charlotte Sinelange, docteur en histoire et chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains et qui est à Paria, et Édouard Delruel, professeur de philosophie politique à l'Université de Liège et co-directeur du Centre de recherche matérialité de la politique et président de l'Union nationale des mutualités socialistes Solidaris. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste.